Et bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouveau numéro de Pattern. Aujourd'hui, je reçois Doc Gero. Alors, personnellement, j'apprécie beaucoup le pseudo. Hein, petite référence à Dragon Ball, voilà. Hommage à Akira Toriyama, récemment décédé, voilà. Ça fait partie des petites choses qui font de la peine, qui font, voilà, un petit crève-cœur.
Désolé de devoir appeler ça avec mon pseudo.
Petite souffrance, ça va être comme une petite musique enfant, tu vois, de souffrance, quoi. Et bon, en tout cas, voilà, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de Dragon Ball, on est là pour parler de Sol Sesto, ton nouveau jeu qui va sortir donc courant 2024. Il y a la démo qui vient de sortir récemment, je l'ai testé, on va en parler après. Et on va revenir, voilà, sur ton parcours, ta formation, qu'est-ce qui t'a amené à travailler en tant que dev freelance, enfin en tout cas dev indépendant. Et voilà, on va parler aussi du fait d'avoir fait appel à un éditeur pour ce jeu, enfin voilà. On va voir pas mal de choses, mais voilà, on va commencer du coup par toi déjà, présente-toi pour ceux qui éventuellement ne te connaîtraient pas, qui regarderaient cette vidéo, qui écouteraient ce podcast.
Ok, et ben déjà un grand merci pour l'invite, hein. trop content d'être ici, et voilà, j'espère que les gens qui écouteront ça seront intéressés. Tu me demandais du coup le parcours, c'est ça? Petit peu en version, je te fais une version méga résumée. En gros, moi, j'ai passé pas mal de temps dans les études. J'ai fait 6 ans d'études supérieures. Donc, j'ai fait un équivalent de licence en game design. Donc, c'est conception de jeux vidéo dans une école parisienne qui s'appelle Isard Digital, à l'époque où c'était en 3 ans. J'ai fait 1 an d'équivalent de mise à niveau en art appliqué. Donc là, c'est vraiment du dessin pur, traditionnel, machin et tout. Un peu de Photoshop et tout, mais beaucoup de dessin traditionnel. Et après, j'ai fait 2 ans de master jeux vidéo dans une école publique qui s'appelle Lengmin. Et donc, c'est un master en réalisation de jeux vidéo. Et moi, j'étais spécialisé en ergonomie. Donc voilà, ça parlera à personne, mais c'est ma spécialisation à Lengmin.
Tout ce qui est un peu UX et tout ça, c'est-à-dire...
Ouais, c'est un peu ça, mais moi, j'étais vraiment... à Lengmin, on fait beaucoup de recherche utilisateur. Donc, c'est comment conduire des playtests, c'est la psychologie cognitive, comment fonctionne le cerveau, et appliquer tout ça à faire tester un jeu, récupérer des données intéressantes et améliorer le jeu en conséquence, quoi. Donc ça, c'était mes études. Avant d'ailleurs d'entrer à Lengmin, j'avais travaillé déjà, donc dans mon master, j'avais travaillé pendant 2 ans en tant que concepteur de jeux vidéo en freelance, donc pour plein de boîtes différentes, des jeux web, des jeux mobiles, plein de trucs, quoi. Et après Lengmin, je suis rentré directement à Ubisoft, où pendant 1 an, justement, j'ai fait de la recherche utilisateur. Donc, j'étais Game User Researcher. et en gros, pendant 1 an, j'étais responsable d'organiser des playtests, faire l'analyse des résultats surtout, c'est comme des petites enquêtes. Et en gros, c'est faire venir des gens à Ubisoft pour tester des jeux qui sont soit ça peut être à tous les états, donc début de production du jeu jusqu'à la quasiment toute fin avant la sortie. Et c'est récolter les avis des gens, trouver où sont les problèmes et envoyer aux développeurs et développeuses la liste de tous les soucis qu'il y a sur leur jeu. Voilà. Et j'ai travaillé beaucoup sur Ghost Recon Wildlands, Mario et les Lapins, For Honor, quelques Assassin's Creed et tout. J'ai touché à plein de jeux à ce moment-là, c'était assez intéressant. Et après, pendant 1 an, je suis passé game designer juste après à Ubisoft, sur un jeu principalement qui s'appelle Starlink. Et enfin, je suis parti pour faire mes propres jeux et continuer YouTube, etc. Parce que je fais du YouTube depuis plus de 10 ans. Et j'ai continué d'ailleurs pendant que j'étais étudiant à Ubisoft et tout. Et j'ai quitté Ubisoft pour faire ça et mes jeux. Ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai quitté Ubisoft. Ça doit faire quasiment 6 ans, ouais.
Ouais. Voilà. Et malgré, entre guillemets, ton jeune âge, on peut dire que t'es quasi senior dans le jeu vidéo.
Eh ben, écoute, d'une part, je ne suis pas si jeune que ça. mon faciès crie puberté tout juste. Alors que, en vrai, j'ai... attention, les gens sont généralement choqués. J'ai quand même 32 ans, quoi. Donc,
d'accord. C'est à peu près l'âge que je te donnais, tu vois. en estimation, tu vois.
Ouais, en estimation, quand tu additionnes les trucs, tu dis, c'est pas possible, il n'a pas 23 ans.
C'est ça.
Non, j'ai 32. Et effectivement, 32 ans, sans rigoler, malheureusement, dans le jeu vidéo, ce qui est un truc où les gens se font beaucoup manger et tout, c'est assez intense, notamment les premières années. Et ben, y a pas tant de trentenaires que ça ou quarantenaires. Donc oui, moi, ça m'est arrivé de travailler en tant que game designer freelance sur des projets, ne serait-ce qu'il y a 1 ou 2 ans. Et quand on me présentait, c'est game designer senior, effectivement. Donc, oui.
Alors du coup, qu'est-ce qui t'a, toi, vraiment motivé, ou en tout cas, pourquoi tu t'es plus lancé sur une carrière d'indé à ton compte, plutôt que une carrière, ben, justement, chez Ubisoft, puisque t'avais un pied dedans, continuer à bosser sur, peut-être pour des gros studios, des choses comme ça?
Alors, c'est extrêmement personnel, hein, ce que je veux dire, mais quand tu travailles dans un gros studio comme Ubisoft, c'est intéressant de sentir que t'es une part d'un tout beaucoup plus grand et que tu peux faire des choses vachement plus ambitieuses et tout. Mais évidemment, tu laisses une part de toi qui est beaucoup plus faible, en tout cas dans le design, dans ce que t'apportes dans le jeu. Donc, il y a des pour et des contre. Pour moi, les contre étaient plus forts, on va dire. Et surtout, l'attrait de faire ses propres jeux et d'être vraiment, d'avoir le pouvoir de modifier ce que tu veux et de juste, en fait, créer ses propres idées et sortir tout ce que t'as dans la tête, c'était plus fort. Donc, et aussi, c'est une histoire de temps. C'est-à-dire que quand moi, quand je travaillais chez Ubisoft, je continuais à développer le premier jeu que j'ai sorti en indé quand j'ai quitté Ubi, qui s'appelle Un Pas Fragile. Et je faisais aussi des vidéos YouTube. Donc j'avais mon boulot chez Ubi, j'avais YouTube et j'avais le jeu que je développais en parallèle. C'était trop dur, quoi. Il fallait en sacrifier un moment. Et voilà, j'ai décidé de sacrifier Ubisoft et de tenter le coup en indé, quoi.
Ça t'a beaucoup aidé, justement, d'avoir une chaîne YouTube pour lancer tes jeux vidéo, du fait d'avoir une visibilité, de montrer le développement en cours de tes projets, communiquer sur la sortie, enfin tout ça.
Ouais, en vrai, ça aide sur beaucoup d'aspects. Donc le premier qui est le plus évident, mais pas forcément le plus fort, c'est de se dire, bah oui, ça apporte une communauté, tu sais que ton jeu va se vendre un minimum. Après, même à mon échelle, tu vois, avec 100 000 abonnés, ça garantit pas que le jeu soit rentable. Très loin de là, il faut faire plus d'efforts que ça pour que ça marche vraiment bien. Par contre, c'est aussi très motivant, et ça, c'est pas du tout un aspect négligeable. C'est-à-dire que je prends autant de plaisir à créer le jeu qu'à en partager les avancées, à dire ce que j'ai appris au passage. Et en fait, ça peut être source de motivation de te dire, ah bah ce mois-ci, j'ai envie de faire une vidéo pour parler du jeu, qu'est-ce que je vais leur raconter? Ah, si j'avance un petit peu ce truc-là, je pourrais leur raconter comment j'ai fait ça aussi, tu vois. Il y a plein de choses. Et les retours des gens aussi, les gens qui te disent qu'ils sont hypés ou non, qui te font des retours sur le concept du jeu, comment il pourrait être mieux, qu'est-ce qu'il est hype ou non dedans. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux, moi je trouve, qui est assez puissant.
Alors du coup, t'as parlé de ton premier jeu, donc Un Pas Fragile. Ça a suivi avec Buisson, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Le concept est assez drôle, hein. L'idée c'est d'échapper à un chasseur, mais c'est de lui péter dessus, hein. Si je résume bien.
En gros, c'est un jeu de cache-cache multijoueur avec des buissons qui pètent.
Voilà. C'est ça.
Tous les joueurs et joueuses jouent des buissons. C'est une forêt de buissons, donc tout se ressemble. Si aucun joueur ne bouge, il n'y a rien qui bouge à l'écran quasiment. Et par contre, dès qu'il y a un joueur ou une joueuse qui bouge, tout de suite, tu vois un buisson avec des petits bras, des petites jambes. Effectivement, tu peux péter sur les autres, péter pour déclencher un chasseur dans l'arène et tout. Mais c'est vraiment un jeu de cache-cache avec des buissons qui pètent. C'est ça le pire.
Ouais. Ça, c'est marrant. Après, il y a eu Larcin Laser.
Exactement, Larcin Laser, ouais, un jeu de puzzle avec où tout le principe c'est que t'as un écran sous forme de grille, tu dois aller d'un point A à un point B dans cet écran, sauf qu'il y a plein de lasers, et dès que tu fais le premier pas, ils disparaissent tous, donc il faut retenir l'emplacement des lasers pour atteindre la sortie. C'est un jeu de mémoire, voilà. Ouais. C'est un puzzle game autour de la mémoire. J'ai essayé de le rendre assez stylisé, beaucoup inspiré des vieilles affiches de films, de tout le style, on va dire, autour de Saul Bass. C'est une grosse inspiration, Saul Bass, donc qui faisait beaucoup d'affiches. Je crois qu'il avait fait l'affiche de Vertigo, des vieux films d'Hitchcock comme ça. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'aller jeter un œil, c'est très stylé.
Comme tu dis, un gros côté rétro, années 50-60, cinéma américain, films d'espionnage. On est clairement dans ces inspirations-là. Mais j'aime bien, moi, la gueule du jeu, ça.
Ah, ça fait plaisir, merci.
Ça, je trouve que t'as bien travaillé la DA, quoi. Et du coup, ça nous amène sur ton jeu, Sol Sesto.
Ouais,
donc, ton nouveau jeu.
Yep.
Alors, on est sur un jeu, un espèce de roguelite tactique. Ouais. Moi, perso, j'en ai un peu parlé sur Twitter, t'as réagi. On me l'aurait vendu comme ça, c'est un truc, tu vois, qui m'aurait pas plus tenté. Mais une fois qu'on y joue, en fait, on y prend goût de suite. C'est-à-dire qu'au début, t'as les premières explications et tu comprends pas bien, en fait, où on veut en venir, tu vois. Mais une fois que tu commences à jouer, tu dis ok d'accord, ah d'accord, alors là je peux faire ça, ok, alors là je peux cliquer d'accord sur une ligne, là je peux sélectionner plutôt une colonne, ah je peux cumuler les pouvoirs avec le soleil, enfin, et petit à petit tu comme ça en essayant des choses, t'arrives à débloquer des idées de gameplay, enfin en tout cas ce que toi tu nous proposes, j'ai envie de dire un peu limite un peu bac à sable, c'est-à-dire que tout est là, mais il faut un petit peu creuser la chose.
Oui, en tout cas, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire par là.
Ouais, c'est tout c'est dans l'apprentissage. Après, bon, moi, je suis arrivé au bout de la démo, peut-être au bout du quatrième essai, quelque chose comme ça. Tu vois.
Pas mal, c'est bien déjà. C'est bien.
Ouais, peut-être cinquième, tu vois, peut-être que j'ai oublié une fois.
peut-être dix.
mais en tout cas, ouais, non, vraiment très très cool. Moi, j'attends du coup la sortie. Je l'ai mis dans ma wishlist.
Ah, c'est gentil.
Et voilà, ça sera day one. Alors du coup, voilà, est-ce que tu peux peut-être un peu mieux pitcher que ce que je l'ai fait ton jeu?
Non, c'était pas mal ce que t'as fait parce qu'il est, pas facile à pitcher. Effectivement, je dirais que c'est un roguelite, c'est un tactical roguelite. Donc c'est vraiment tour par tour sur une grille, tu te déplaces sur une grille, mais c'est un peu différent, c'est un jeu qui joue beaucoup autour de la prise de risque, parce que tout le principe du jeu est que tu peux jamais, quasiment jamais, choisir la case exacte sur laquelle tu vas tomber.
Tu
te déplaces de base ligne par ligne, il y a 4 lignes sur la grille, et en fait tu choisis la ligne que tu veux, et t'as une chance sur 4, on va dire, de tomber sur chaque case, quoi. Et il y a des cases où tu vas prendre des dégâts, il y a des cases où tu vas récupérer de la vie, il y a des cases où tu vas récupérer de l'argent. Et tout le but, c'est de mitiger la prise de risque, mitiger le hasard avec tous les objets, les pouvoirs que nous, on va te donner dans ta run. Et il y a plein de façons de mitiger le risque. Il y a des objets qui vont détruire les ennemis d'une ligne en particulier ou d'une colonne. Et du coup, tu vas pouvoir t'y déplacer sans prendre trop de risques. Il y a des pouvoirs qui te permettent de te déplacer différemment sur l'échiquier, enfin l'échiquier sur le tableau. Ouais. Voilà, il y a plein de choses. Et après, il y a des écrans un peu bizarres, un peu exotiques. On a essayé de mettre des trucs un peu étranges dans le jeu. Une vendeuse, un démon, un forgeron. Voilà, il y a plein de délires visuels. La DA du jeu est assez forte. Je pense que d'ailleurs. On aime ou on n'aime pas, il y a des gens à qui ça parlera pas, mais je pense que les gens à qui ça parle, ça leur parle très fort, quoi.
Ouais.
Elle est très tranchée, cette DA.
On est sur de l'environnement un peu dark fantasy. On est clairement sur
on est un peu sur de la dark fantasy. Il y a un côté un peu, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est grotesque dans la DA.
Aussi,
c'est-à-dire que ça fait à la fois peur et à la fois c'est un peu marrant, mais c'est inquiétant, tu vois. Genre, la vendeuse a un peu rigolo son design, mais un peu inquiétant aussi, tu vois. C'est marrant, les gens comparent beaucoup la DA à Félix Colgrave, qui est un animateur qui fait des dessins animés sur YouTube qui sont hyper stylés, donc on est très contents. C'est pas du tout une inspi, mais c'est vrai que le style de Félix se rapproche, en tout cas, le style de Chariot Spiral, donc l'artiste de Sol Sesto, qui est un auteur de BD et tout, se rapproche un peu du style de Félix Colgrave, notamment quand il anime, quoi.
Ouais. Après, sur la philosophie, en tout cas, bon, pas le style graphique, mais vraiment la philosophie pure, ça me fait penser moi un peu à Dragon Quest. Alors du coup, on revient un peu sur Akira Toriyama, mais le côté où t'as des créatures qui sont censées, enfin, des squelettes ou des choses comme ça, mais qui font, comme tu le dis, pas peur, tu vois, qui sont un peu, un peu cartoon, un peu, on est dans cette philosophie-là, on va dire, quoi.
Je comprends ce que tu veux dire par là, ouais. C'est vrai qu'il y a
après,
un peu de ça.
Au niveau du style, on est quand même sur quelque chose de très très différent. Mais ouais, moi j'ai bien aimé justement ces mécaniques de gameplay dont tu parles, la petite sorcière qui te propose un pouvoir, si t'as pas assez de pesos pour l'apprendre, elle te tape la main.
On essaie de rajouter plein de petits trucs. Il y a plein d'insectes sur la table de la vendeuse, tu peux les écraser avec ton doigt. Il y a des insectes parfois qui sont dorés, qui vont te donner des pièces. On essaie de mettre plein de petits détails. Parfois, t'es en train de jouer, il y a un gobelin qui sort de l'interface pour te narguer. Pareil, tu peux cliquer dessus, il te donne des pièces. Enfin, il y a plein
Je l'ai pas vu sur la démo, lui. Alors peut-être que
Il peut arriver.
Peut-être qu'il s'est montré, mais je l'ai pas vu.
C'est fort possible qu'il soit sorti et que tu l'aies pas vu, parce que parfois les gens sont tellement concentrés qu'ils voient pas le gobelin. Mm-hmm. Mais c'est marrant, on fait exprès de. C'est pas important que tu le vois. Si tu le vois, c'est drôle, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais on essaye de mettre beaucoup de petits secrets aussi dans le jeu, et ça, c'est pas encore forcément énormément visible dans la démo, mais tu verras plus tard avec le jeu final. Donc voilà. Et je voulais dire aussi un dernier truc, c'est en fait c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais quand on abstrait tous les visuels et tout et qu'on regarde purement d'un point de vue très mécanique, ça se rapproche au final pas mal de jeux comme Balatro dans l'idée, au sens où c'est des jeux qui misent pas mal sur le hasard et qu'est-ce que tu en fais. Genre on te donne une main et qu'est-ce que tu fais avec cette main-là, et nous on va je sais pas si pour les gens en tout cas qui ont joué à Balatro, potentiellement dans Balatro t'as plein de jokers qui modifient complètement la façon dont tu vas utiliser les cartes que t'as en main, parce que c'est des jokers qui font des trucs assez fous, et en fait nous c'est un truc qu'on n'a pas encore dans Solcesto mais qu'on est en train d'ajouter en ce moment.
D'accord.
Qui sont des effets très forts sur les dents. Dans Solcesto c'est les dents qui te donnent des malédictions, des modifications de chances de tomber sur telle ou telle case. Et en fait, là, on est en ce moment d'ajouter des effets du style si tu tombes sur un coffre, au tour suivant, les ennemis qui sont autour du coffre sont moins forts, tu vois. Plein d'effets comme ça qui peuvent se cumuler, synergiser les uns avec les autres.
Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une petite dimension RPG dans le jeu, où on peut choisir d'augmenter sa force, enfin son attaque physique ou son attaque magique.
Exactement.
Donc ça aussi, c'est pas mal fou, c'est bien foutu, je trouve. De laisser le choix au joueur, justement, qu'est-ce qu'il veut améliorer. Et après, parfois, t'as le piège où tu vas peut-être te blinder sur l'attaque physique, mais tu vas tomber que sur des gros ennemis
magiques.
du coup, t'es piégé, quoi. Ouais. Et si t'as pas de dés ou de choses comme ça, ou de clés pour aller au prochain palier, tu sais que c'est la défaite, quoi. Ça pue la défaite derrière.
Mais typiquement, tu vois, dans ce genre de cas, on est en train de modifier des choses en ce moment. Et c'est des choses qui étaient prévues dès le début, mais que, juste, on n'a pas le temps de tout développer en même temps, tu vois. Mais là, on est en train de séparer les types de monstres dans les pourcentages d'attirance. C'est-à-dire que dans la démo, dans le livre de stats qui est en bas à gauche, t'as toutes les stats décrites, et en fait tu vois que t'as une attirance pour les monstres physiques et une attirance pour les monstres magiques, sauf que c'est la même dans la démo, tu peux pas augmenter l'un ou l'autre différemment, alors que dans le jeu tu pourras être plus attiré par les monstres physiques que les monstres magiques, ou l'inverse. Et pareil, les pièges comme les pics sur lesquels tu peux retomber plusieurs fois, tu pourras être plus ou moins attiré par eux aussi. Donc tu pourras très bien essayer de faire en sorte de jamais tomber sur des pièges ou pas être attiré par les monstres magiques et du coup renforcer que ta force pour poutrer que les monstres force. Enfin, faire des petits calculs comme ça, quoi.
Bien sûr. Et d'ailleurs, sur la démo, on teste qu'une seule classe de combattants. J'imagine qu'il est prévu une grosse variété et que ça va du coup varier aussi les phases de gameplay, en tout cas les stratégies à mettre en place.
Tout à fait, parce que effectivement, j'avais complètement oublié ça, mais t'as raison. On aimerait bien une dizaine de persos au total dans le jeu, au moins un truc comme ça. Et en fait, chaque perso démarrera avec des stats différentes. Donc potentiellement pas la même vie, pas le même nombre d'objets qu'ils peuvent porter, le même nombre d'attaques, de magie, etc. Et surtout, ils auront... tous un pouvoir unique. Alors on va essayer de faire en sorte qu'ils aient tous un pouvoir unique, peut-être qu'il y aura un peu de répétition dans les pouvoirs, mais dans la démo, le seul perso qu'on peut jouer, son pouvoir, c'est de se déplacer en colonne. Donc tous les X actions qu'il fait, il a la possibilité de se déplacer en colonne plutôt qu'en ligne, si on a envie. Et en fait, chaque perso aura un pouvoir comme ça. Il y a un perso qui va se déplacer en diagonale, un qui va se déplacer en croix autour de sa position actuelle, ce genre de choses. Et ces pouvoirs de déplacement, ils sont assez importants parce que on peut en plus les combiner avec les objets. C'est-à-dire que déjà dans la démo, là, si on utilise une bombe, la bombe, elle va tuer tous les ennemis d'une ligne. Oui. Mais par contre, si on clique sur la bombe et qu'on a le pouvoir en même temps et qu'on sélectionne le pouvoir, on peut faire péter une bombe sur une colonne à la place. Tu vois.
C'est ça. Ouais.
Et ça, c'est intéressant parce que ça change parfois la propriété des objets. Dans la démo, t'as un arc qui permet de tuer un seul ennemi sur une case très précise, ce qui peut être très pratique pour tuer genre l'ennemi le plus fort d'une ligne. Mais tu peux aussi combiner cet arc avec le pouvoir en colonne pour que l'arc qui tire sur quatre cases en même temps en colonne, tu vois. Donc il y a plein de petites synergies que tu peux faire comme ça, et en fonction des pouvoirs, ça fera pas les mêmes synergies, quoi.
Ouais. Alors maintenant on va se pencher un peu sur la conception du jeu. Donc pourquoi toi t'es parti sur ce concept de roguelite tactique, d'où ça t'est venu cette idée de présenter ça comme ça?
En vrai, je sais pas exactement d'où ça me vient cette idée, c'est très vieux. Je crois que j'en parlais déjà à l'Engmin de cette idée. Donc pour te dire, pardon, c'était mm-hmm. c'était il y a genre, ça va faire 8 ou 9 ans que je l'avais en tête, cette idée. J'avais déjà fait un prototype très très rapidement pendant une game jam, mais genre quand je dis très rapidement, c'est genre 2-3 heures, j'avais fait un petit proto pour le concept de base qui était juste à plusieurs lignes, tu cliques dessus et tu tombes sur une case aléatoirement là-dessus. Mmh. Et après, j'avais cette idée qui traînait. Elle était un peu inspirée de jeux comme Dice Folk, ça c'est un jeu de pote qui vient de sortir. Dicey Dungeon, pardon. Elle était un peu inspirée de jeux genre Dicey Dungeon, même de jeux de société auxquels je joue qui sont des jeux autour de lancer de dés, qu'est-ce que tu fais avec les résultats de dés que t'as et tout. Donc voilà. Et en fait, il y a un moment, j'ai vu une game jam dont le thème était random. Donc aléatoire, et je l'ai proposé, j'ai proposé de la faire à Chariot Spiral, donc qui est l'artiste actuel du jeu. On a fait la game jam, on a poussé un peu ce concept, et on s'est dit, ah mais en fait il y a un truc à faire avec ce concept, genre ça pourrait être vraiment sympa. Et tu vois, on se disait pas on est en train de faire un roguelite, ou on est en train de faire un tactical, ou juste on avait cette idée, et on se disait, ah c'est marrant quand même, il y a moyen de faire un truc un peu amusant.
Donc, voilà. Donc entre le proto... Et l'état actuel du jeu, qui sera encore différent, je pense, de l'état définitif lors de sa sortie. Ouais. Mais voilà, déjà par rapport à ce qu'il est actuellement sur la démo, quel est le choix de game design peut-être que tu as changé en cours de route, un gros choix, tu vois, est-ce qu'il y a eu vraiment à un moment donné un changement de direction sur certaines mécaniques que tu voulais mettre en place et que tu t'es rendu compte finalement que c'était pas intuitif ou peut-être mieux de le faire autrement?
En fait, je dirais pas ça. On n'a pas eu de gros changements drastiques, tu vois. Dès le début, on avait une vision assez définie qui était, on a ce cœur de jeu, donc ce truc de, tu cliques sur une ligne, tu tombes au pif dessus. Et après, au fur et à mesure, on rajoute plein de petits outils. Donc, tiens, on va rajouter les objets. Tiens, on rajoute les malédictions avec les dents qui te changent les pourcentages d'attirance vers tel ou tel type de case. Et c'est plein de petites modifications, et ça arrive parfois qu'on se dise, comme tu le soulignais, que ah bah ça c'est pas très clair ou ça il faudrait le retravailler. Mais c'est plus des ajustements, tu vois. Au fur et à mesure que les gens testent, on est tout le temps en train d'ajuster le jeu. Là, on est encore en train de faire des ajustements. Et parfois, il y a jamais rien de majeur ou de truc où on se dit ah en fait faut changer ce gros truc dans le jeu et ça va tout changer. C'est plus des petites choses qu'on rajoute qui affinent la formule, tu vois.
D'accord.
L'idée de base, qui est, on prend ce concept simple et on rajoute une couche roguelite dessus pour qu'il y ait de la rejouabilité, qu'il y ait de la progression au fur et à mesure des runs et tout. Ça a toujours été là et voilà.
Ouais, ouais, c'était vraiment l'essence du jeu, donc ça a été respecté quand même dans sa
globalité.
Ouais,
on n'a pas trop changé de direction depuis le début. On pense plutôt que ça peut tenir et voilà, on préfère affiner l'idée plutôt que de bifurquer sur un truc totalement différent.
Ok. Alors sur la démo, on sent qu'il y a des choses qui sont là, mais qui sont pas peut-être encore exploitées. Par exemple, je sais pas, je crois que c'est dans du côté sur l'interface, c'est en haut à droite, vers le soleil, tout ça. Il y a des espèces de petits boutons sur lesquels on peut appuyer. ça fait rien. J'ai essayé de c'est une espèce de petit piano, je sais pas trop.
C'est une flûte, ouais, c'est une flûte.
C'est une flûte, d'accord. Ouais. Et bon là ça fait rien. Est-ce que c'est quelque chose qui va être est-ce que c'est censé servir quelque chose à terme sur
c'est
la version définitive?
C'est pour le plaisir. Non, je rigole.
D'accord.
Non, je rigole.
Vous pouvez faire chier avec un truc sur l'interface.
Ouais, il y avait un trou dans l'interface, on s'est dit vas-y, on va mettre une flûte quoi. Non, en gros, ça fait partie des petits délires un peu mystiques qu'on veut mettre dans le jeu, c'est-à-dire à un moment la flûte ne sera pas là de base, tu la récupéreras à un moment dans le jeu. Mmh. Et l'idée c'est que cette flûte il y a des mélodies d'en cacher un peu dans le jeu, peut-être même en dehors du jeu, on est en train de voir avec Chariot. Et en gros, ces mélodies, il y en aurait pas des tonnes, il y en a peut-être que 5-6 dans le jeu, mais elles font des gros trucs qui permettent, par exemple, de skipper un biome ou des choses comme ça, tu vois. Et l'idée, c'est que les joueurs et joueuses découvrent ces outils au fur et à mesure et puissent avoir des buffs permanents ou des petites astuces qui modifient un peu leur run en utilisant cette flûte. Voilà. Et qui tu vois le côté un peu découverte au fur et à mesure, c'est vraiment comme un cheat code, c'est comme si on avait mis un petit outil pour rentrer des codes de triche dans le jeu, et ces codes de triche il va falloir les trouver un peu partout cachés dans le jeu quoi.
Voilà. Ok, alors maintenant on va peut-être passer sur la phase le sujet de l'éditeur. Puisque là, tu travailles actuellement avec Goblins, donc si j'ai bien compris, ils sont il participe pas vraiment à la prod, mais plus à le marketing, à la commercialisation.
Exactement, ouais.
Et c'est la première fois que tu bosses avec un éditeur ?
Alors, c'est la première fois, on va dire, que je bosse avec un éditeur qui a un apport aussi fort sur le jeu. Sur Un Pas Fragile, j'avais bossé avec un tout petit éditeur qui s'appelait Opal Games et qui m'avait aidé à faire le portage iOS, donc pour les iPhones et tout, et qui avait fait un peu parler du jeu, mais c'était vraiment, l'échelle était minuscule par rapport à maintenant, tu vois, genre, j'ai pas, ça m'avait beaucoup aidé, tu vois, mais là, c'est très différent. Goblins, ils investissent quand même de l'argent dans le jeu, c'est plusieurs, je peux pas dire exactement combien parce que c'est des contrats, etc., mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, on se rapproche plutôt des 100 000 qu'autre chose, tu vois. Et donc ça, en marketing, en QA, donc il y a une équipe QA en interne chez Goblins, donc c'est des gens qui vont tester le jeu, faire plein de retours, me faire des beaux Excel avec tous les bugs, avec des priorités, des vidéos sur comment ils ont trouvé le bug et tout. Enfin, c'est vraiment très, c'est une aide extrêmement précieuse. On a un producteur chez Goblins avec qui on a des rendez-vous toutes les 2-3 semaines, qui est super sympa, qui s'appelle Thomas. Et pareil, on lui donne des infos. Eux, ils nous disent où est-ce qu'ils en sont côté marketing, ce qu'ils ont prévu et tout. Donc, c'est super intéressant. Il y a des échanges. Comme Goblins ne paye pas la prod, c'est-à-dire qu'ils ne nous payent pas pour faire le jeu, ils payent uniquement le marketing, bah, d'une part, on récupère un bon pourcentage du jeu assez vite. C'est-à-dire que très, très vite, on touche... qu'est-ce que je peux dire sans être trop précis? on touche en gros, dès les premières ventes, on touche la moitié, tu vois, des revenus, ce qui est pas classique dans un contrat avec un publisher. Mais le contrat publisher classique, c'est le publisher, il te paye la production de ton jeu, donc il te verse un salaire pour faire le jeu, mais par contre après il se rembourse sur il prend 100% ou 90% ou le plus gentil possible, c'est 80% des ventes jusqu'à ce qu'ils se remboursent, tu vois.
Et ça
peut durer très longtemps.
Ouais.
Là, dès les premières ventes, on touche la moitié. Et après, on touche une plus grosse part que ça une fois qu'ils se sont remboursés leur coût marketing. Donc, c'est très cool. Et oui, ça aide de ouf de bosser avec Goblins. Ça nous soulage de plein de choses. C'est aussi un peu de travail parce que forcément, bah, faut rendre un peu des comptes, faut avoir des réunions avec eux. Ils peuvent pas tout faire non plus. Il faut qu'ils nous consultent aussi, tu vois. Donc, mais en vrai, ça aide de fou et ça fait plaisir de faire partie d'un plus gros truc. Et je trouve que ça fait, pour moi, c'est très agréable parce que c'est un tout sur Solcesto qui est que, bah, cette fois-ci, je travaille déjà avec quelqu'un, ce qui était pas le cas avant. Alors, j'ai toujours travaillé avec Antoine Druot, qui est la personne qui fait la musique de mes jeux. Mais Buisson et Larsin Laser, mes derniers jeux, je les avais fait en solo. Donc, c'est un travail de fou, en fait. Le moindre truc que tu dois faire, c'est toi qui dois le faire, quoi. La moindre petite anime, le petit bug, le machin, c'est tout. Là, je travaille avec Chariot, il va super vite sur les graphes. Il fait des trucs qui sont très stylés, avec une vraie identité. Clairement, un des hooks du jeu, ce qui attire les gens, c'est les visuels, donc ça aide beaucoup. Et en plus, il a plein d'idées design, donc je suis même pas tout seul à designer le jeu, quoi. Ça aide énormément. Et Goblins, en plus, bah voilà, ça agrandit encore la team, même s'ils sont pas en train de développer le jeu avec nous, ça aide sur le marketing, la com et tout. Donc c'est trop cool. C'est vraiment très plaisant de faire ça. J'avais essayé d'avoir des éditeurs pour mes précédents jeux, mais je pense que c'était trop tôt. Larsin Laser et Buisson, c'était pas des jeux très marketables. Donc c'était quasiment impossible de trouver un éditeur, en fait, maintenant, avec du recul.
Ouais.
Mais c'est un bon step up, je trouve, d'avoir un éditeur, je suis très content. Donc on sent que là il y a un potentiel pour le jeu. J'ai aucun doute que Solcesto va mieux se vendre que mes autres jeux. Voilà. Ce qui est pas très dur, Larsin Laser, c'est pas très bien vendu en vrai. Buisson, ça va. Je crois qu'on approche des 12 000 ventes, un truc comme ça, sur Steam plus Switch. Donc moi, je suis très content. Ça me rapporte encore des sous de temps en temps et tout. Donc en vrai, c'est cool. Mais ouais, Solcesto, là, il y a un bon potentiel. On est vraiment très content pour le coup.
Alors du coup, t'as évoqué le fait que t'as beaucoup bossé en solo dessus, enfin, même si voilà, t'as une aide quand même au niveau pour le graphisme, mais
tu veux dire sur Solcesto?
Enfin, sur Solcesto et même les anciens.
Ah oui, les anciens surtout, parce que Solcesto, là, pour le coup, c'est un vrai duo, on est vraiment duo avec Charles, quoi.
Mais du coup, est-ce que la partie justement, peut-être codage, c'était la partie la plus compliquée pour toi par rapport à ton profil qui est peut-être plus créa à la base?
Alors oui, moi je suis pas du tout programmeur, hein, de base. Après, j'utilise un moteur. Ça, c'est l'avantage qu'on a, c'est que à notre époque, on a la chance d'avoir des tonnes de moteurs qui permettent de faire des jeux assez facilement, et surtout en fonction de ton niveau d'affinité avec la programmation, tu peux avoir des moteurs plus ou moins complexes. Moi, j'utilise un moteur qui s'appelle Construct 3, qui est extrêmement simple à utiliser. Mmh. Je l'enseigne dans différentes écoles aussi, parce que ça, je suis aussi intervenant dans différentes écoles de jeux vidéo. Et en vrai, c'est un moteur, littéralement, je l'enseigne en une journée à certains, certains étudiants et étudiantes. Et en une journée, ils arrivent déjà à faire des mini-jeux et tout.
Donc c'est pas celui qui fonctionne avec du HTML ou quelque chose comme ça
Si, c'est un moteur. Ouais. Ce que ça exporte, la base, c'est du HTML5, JavaScript. Mmh. Donc tu peux faire des jeux web avec, mais ça marche très bien aussi pour faire des jeux PC, des jeux mobiles. Mmh. Et c'est trop puissant par rapport à la facilité d'utilisation, quoi. Ça fait que des jeux 2D. Tu peux faire un peu de 3D depuis peu, mais bon, c'est encore assez balbutiant. Mais par contre, pour faire des jeux 2D, c'est très, très puissant, quoi. C'est vraiment très bien. Donc, le code, moi, je dirais que ça reste de toute façon une des parties les plus longues de faire un jeu. Honnêtement, c'est beaucoup de boulot le code. Mais mais je m'amuse bien, et puis pour moi le game design, donc là vraiment la conception de jeu, ça passe aussi beaucoup par tous les micro ajustements que tu fais dans le code, donc j'aime bien avoir la main là-dessus, c'est très agréable. Et là, comme je bosse avec Chariot qui s'occupe vraiment intégralement des visuels, je peux me focus sur vraiment le code et tout le game design qu'on fait passer à travers ça, quoi.
Et justement sur Sosesto, t'as eu peut-être une difficulté technique à un moment donné lors du développement?
J'ai pas de difficultés techniques en soi. Il y a des trucs qui sont compliqués. C'est de loin, je pense, le jeu le plus compliqué que j'ai fait en termes à la fois de design et de code.
Il y a beaucoup d'animation dans le jeu. Il y a beaucoup d'animations aussi.
Mais vu que c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois, c'est pas compliqué. Genre moi, je les mets dans le jeu et puis basta. Mais il y a beaucoup de probabilités. Il y a plein de calculs qui sont pas forcément hyper complexes, mais qui se chevauchent les uns les autres. Il y a tel truc qui influence tel truc qui influence tel truc, tu vois. Il y a beaucoup d'interfaces à gérer parce que c'est un gros jeu d'interface en vrai. Il y a un inventaire, il y a les dents, il y a qu'est-ce que t'affiches, machin et tout. Donc même en termes d'UX, c'est assez compliqué aussi. Donc ouais, c'est une machine à bug. Ce jeu est une machine à bug, donc je passe beaucoup de temps à débugger. Mais ça va encore. On n'a pas eu trop de soucis. Il y a un moment où on avait des gros soucis de performance parce que les calculs de probabilité et tout, je les faisais pas très bien. Et juste avant que la démo sorte, là, j'ai fait une grosse passe de debug et j'ai dû diviser par 20 le nombre de calculs de probabilité que je faisais dans le jeu. Donc ça a bien aidé, quoi.
Ouais.
Mais non, voilà, c'est plus dur qu'avant, c'est sûr. C'est un jeu un peu plus compliqué que ce que je fais habituellement.
Alors du coup, ouais, t'as aussi dit que vu que tu utilises beaucoup Construct, t'as fait beaucoup de jeux, enfin tous tes jeux sont en 2D, ceux que t'as fait en indé. Ouais. Est-ce que t'as envie, toi, un jour de passer sur la 3D, ou ça te tente pas du tout?
Si, je suis assez chaud pour faire des jeux 3D, un de ces quatre. Je considère pas ça comme une étape supérieure en mode un jour je ferai des jeux en 3D, tu vois, next step. J'ai encore plein d'idées de jeux en 2D. Moi, c'est un espace que j'adore explorer. Déjà parce que je pense que visuellement, je suis plus attiré par la 2D. Enfin, j'ai plus d'idées de jeux en 2D et tout. Mais après, j'ai des idées de jeux en 3D et je pense que même pour le plaisir perso, j'aimerais bien, par exemple, j'aimerais bien apprendre Godot, tu vois, qui est un moteur de jeu assez populaire ces derniers temps. Et pour ça, il faudrait juste que j'ai un peu de temps. En vrai, si j'arrive à faire un jeu qui marche, un de ces quatre, qui marche vraiment, je veux dire, au sens où ça me rapporte assez d'argent pour que je puisse ne pas travailler, en tout cas pas faire un truc rentable pendant quelques mois, je me mettrai sur un nouveau moteur pour apprendre, pour le plaisir d'apprendre, tester un peu la 3D, faire des petites bêtises avec, quoi.
Tu t'achèterais du temps, quoi.
Ouais, exactement. En vrai, c'est ça. Hein. Là, j'ai pas pu. Mes derniers jeux, ils ont pas assez marché. Ça marchouille, ça me permet de subsister un peu en faisant pas trop de freelance, et c'est cool, mais c'est pas assez pour que je puisse me dire, pendant 4-5 mois, je me fais un plaisir et je fais un jeu juste pour le plaisir, pour apprendre des choses et tout. Enfin, alors, peut-être avec Solcesto, on verra.
Écoute, hein, croise les doigts, on touche du bois, tout ce qu'il faut. Donc là, actuellement, si je comprends bien, tu bosses toujours en freelance sur d'autres projets à côté pour subvenir à tes besoins. Tu vis pas encore de tes jeux, quoi.
Alors, Je le faisais beaucoup. J'ai mis un stop en fin d'année dernière, milieu fin d'année dernière. J'ai arrêté de prendre les projets freelance. J'ai annulé tous les cours que je devais donner dans des écoles et tout. Donc là, il me reste un dernier cours que je dois donner dans une école en Belgique le mois prochain d'ailleurs. Parce que c'est une école où j'aime bien aller et tout, donc ça va être sympa. Mais sinon, j'ai annulé énormément de freelance, donc c'est un petit risque financier pour moi, parce que du coup, je vais plus avoir de revenus. Là, j'ai un dernier truc aussi, je développe un jeu en freelance pour un couple d'illustrateurs. Et c'est un truc sur lequel je suis depuis mars de l'année dernière, donc ça dure depuis un an. Mais c'est très flex, quoi. C'est genre, parfois, je travaille dessus, genre une demi-journée ou une journée par semaine, tu vois, c'est très cool. Et ça me fait un peu de sous, c'est un projet très sympa. C'est le dernier truc en freelance que je fais aussi, tu vois. Donc vraiment, j'essaye de mettre de plus... Le but, moi, à terme, c'est clairement de plus faire de freelance du tout. Et j'en suis plus très loin, tu vois. Et je me dis, Sol Sesto, il y a moyen que ce soit le jeu qui me libère enfin de tout ça, quoi.
Ok. Là, est-ce que du coup, t'as des objectifs... justement pour de nombre de ventes, par exemple, de jeux à écouler pour te dire, bon, là, je suis flex, j'avance du temps, justement.
On a des estimations de ventes qui ont été faites par Goblins au moment même, avant même de signer avec eux. Ça faisait partie un peu des leviers pour dealer avec eux. C'était leurs estimes de ventes. Il y a des estimes faibles, moyennes, fortes. Donc, nous, on a un truc, on a des chiffres en tête, un petit peu. C'est pas un objectif en soi. Moi, je suis plus en mode, j'ai pas d'objectif précis. Je me dis, si le jeu peut me dégager un SMIC annuel pendant 2-3 ans après sa sortie, tu vois, ce serait énorme, quoi. Que chaque année, il me rapporte assez pour me faire un petit SMIC et que je puisse faire d'autres projets à côté. Et après, là, on est beaucoup fixé sur les wishlists avec Chariot. Donc, c'est un truc qu'on regarde énormément chaque jour, quasiment. comment les wishlists avancent et tout. Qu'est-ce qu'on fait comme truc marketing fort pour qu'on ait des wishlists. Tu vois, là, la démo qu'on vient de sortir, pour te dire un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Quand on a sorti cette démo avec Chariot, on était déjà en train de bosser sur des gros changements par rapport à cette démo. Et on n'arrêtait pas de se dire, est-ce qu'on la sort, cette démo, tu vois. Elle est représentative de l'idée du jeu, mais en termes de qualité, de construction, de build, de profondeur de jeu, on n'est pas encore à ce qu'on sait qu'on va avoir. Et on n'a pas envie que les gens pensent que c'est que ça, le jeu, tu vois. C'est même pas que en termes de contenu, c'est pas le nombre d'objets qu'il y a, c'est plus vraiment, c'est la qualité des objets, à quel point ils modifient le jeu et tout. Mais on s'est dit, on sort quand même cette démo parce qu'on a besoin d'un moment marketing un peu fort. Et c'est pas grave, on fera des updates de la démo et ce sera d'autres occasions encore de faire des updates marketing. Donc voilà, on a décidé à sortir. Finalement, aucun regret parce que on est passé de 6500 wishlists à plus de 8500 en quelques jours là depuis la sortie de la démo. Donc c'est trop bien. Je pense qu'on va atteindre les 10 000 wishlists. D'ici juin, quoi. Et en juin, on fera le Steam Next Fest. Donc, c'est le gros festival de démo avec une nouvelle démo qui sera beaucoup plus stylée que l'actuelle.
D'accord.
Et là, je pense qu'on... Voilà. Notre objectif, c'est vraiment atteindre toujours plus de wishlists. À la base, quand on a lancé le jeu, nous, ce qu'on voulait, c'est avoir 10 000 wishlists pour la sortie. Là, on sait qu'on les aura largement. Donc, on vise encore plus haut. Et plus on en a, plus ça assure des bonnes ventes. Donc,
bien sûr.
Là, on est sur une bonne pente. Là, on est assez content.
Ouais, la dynamique est positive pour l'instant.
Dynamique est très, très, très positive pour l'instant. Donc, c'est cool.
Donc, en estimation, le jeu, ce serait pour quand? Pour septembre 2024, à peu près?
On n'a pas de date encore. On n'a pas de date précise parce que c'est un truc qu'on rediscute souvent. Le prochain gros morceau, c'est vraiment la démo de juin qui...
D'accord.
Dis-toi que quand elle sort, cette démo, notre objectif, c'est que les gens ils puissent déjà s'amuser et jouer potentiellement quelques heures sur cette démo, quoi. Tu vois. Ce soit un truc que tu relances, tu peux faire plusieurs parties, faire des streams dessus et tout, et que ce soit assez riche. L'Early Access, puisque le jeu sortira en Early Access, devrait sortir pas très longtemps après la démo, genre 2-3 mois après, voilà.
Ok, d'accord, bon. Au niveau des sorties sur les plateformes, donc là j'imagine qu'il y a la sortie PC qui doit être évidente. Est-ce que du coup sur mobile, téléphone mobile ou même sur console, il y a quelque chose qui est prévu ou envisagé?
Ouais, alors c'est envisagé. Clairement, on favorise pour l'instant la version PC à 1000%. Après, la version mobile, c'est le truc qu'on a discuté. Moi, c'est perso, c'est ce qui me hype le moins parce que J'ai fait une version mobile de Larcin Laser qui était un jeu moins compliqué et ça a été l'enfer. J'ai vraiment pas du tout envie de de recoder ou de d'ajuster le jeu pour qu'il tourne sur mobile. Donc en gros, toutes les versions console, mobile et tout, ce sera extrêmement dépendant du succès du jeu sur PC.
Ouais.
C'est évident que si le jeu il fonctionne sur PC, on en fera des versions console et mobile. Console d'abord, je pense, mobile après. Et que ce sera pas moi qui fera ces versions là, voilà. Je pense que on a déjà une boîte de portage en tête pour la version console, donc ce sera probablement, enfin je te dis ça, on n'est pas sûr encore, mais ce sera probablement Seven Studio, donc ceux qui ont fait le portage de Buisson déjà, de mon jeu Buisson, et la version mobile, on verra si le jeu marche vraiment bien, et ben on commandera une version mobile à une boîte de portage, quoi.
Ok. Et alors petite dernière question, un petit peu bonus. Alors j'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire Solcesto, tu vois. Je suis tombé sur du slovaque. J'ai testé des trucs en italien, des trucs en latin. Donc ça veut dire quoi?
Alors en vrai, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On a beaucoup discuté des noms et tout. Pour la petite histoire, tout à la base, c'est la copine de Chariot qui a trouvé ce nom complètement au pif. En voyant l'interface du jeu, elle a vu qu'il y avait un soleil, elle a dit, ah tiens, on pourrait l'appeler, vous pourriez l'appeler Solcesta quand on cherchait un nom. À la base, c'était Solcesta. On était resté sur ce nom parce qu'on trouvait que ça sonnait cool, il y avait un côté un peu vieux RPG et tout. Sol, évidemment, c'est pour le côté soleil et toute l'histoire du jeu tourne autour du soleil qui a disparu, etc. Et dans nos derniers déliens, on a transformé Solcesta en Solcesto parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Solcresta qui existe déjà, donc c'était vraiment très proche.
Ouais.
Et en plus, c'est un jeu Platinum Games et tout. C'est un shmup et tout, un peu old school, pas très stylé. Mais bref, on s'est dit, vas-y, on s'en fout. Solcesto, ce sera assez différent, ça nous va. Et dans le tout dernier délire, et attention, exclusivité, c'est Osef, mais ça me fait rire. On va avoir un trailer animé pour la sortie du jeu.
C'est beau.
Donc animé par une boîte d'animation et tout, ça va être très très stylé, franchement. Je suis hyper hypé par j'ai déjà un peu des bouts d'animation et tout, ça va être vraiment chambé. Ouais. Et en fait, dans le trailer, il y a un gimmick qui revient beaucoup parce que ce sera aussi la cinématique d'intro du jeu quand tu lances le jeu. C'est Solcesto, c'est traduit par le soleil a disparu. Et donc en fait plusieurs fois dans le trailer, ça dit Solcesto avec une voix un peu mystique et tout, et c'est sous-titré le soleil a disparu, tu vois.
D'accord.
Et voilà, c'est un peu le délire du jeu, c'est le soleil a disparu et toi tu t'engouffres dans un donjon pour aller récupérer le soleil.
Voilà. C'est beau. Bah écoute. je te remercie d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi, surtout, c'est trop cool. C'est hyper gentil de parler de notre travail et tout.
Ah, c'est riche en renseignement, c'est intéressant toujours de savoir un peu ce qui se cache derrière le développement des jeux. C'est riche en enseignement, comme on dit. À celles et ceux qui regardent ce podcast ou qui nous écoutent, vraiment tester la démo, c'est sur Steam. Vous le regretterez pas, c'est vraiment un très très bon jeu. Moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Je suis un peu frustré parce que du coup je m'envie vraiment de mettre la main sur la version finale. Il va falloir patienter, c'est pas grave.
Ouais, mais petite info d'ailleurs pour les gens qui téléchargeront la démo, sachez que c'est une démo, on la voit nous pas comme une early access, mais en gros elle va évoluer, c'est à dire que cette démo, avant même la grosse démo qui sortira en juin pour le Steam Fest, on va la faire changer et tout, et déjà mi-avril, il devrait y avoir une grosse update avec des choses qui auront bien changé, le jeu qui sera un peu plus profond et tout.
Ok, bon, je réessayerai ça aussi, moi.
Voilà. Tu auras un peu de quoi patienter au fur et à mesure. On va lâcher des petits trucs.
Bah écoute, je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation et peut-être à une prochaine fois sur la chaîne, c'est en jamais, pour reparler de Solcesto ou d'autres choses.
Avec plaisir, avec grand plaisir, et merci encore pour l'invite.
Allez, ciao ciao.
Bye tout le monde.
Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux pros du jeu vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr. À bientôt!
Hennessy nerd in me. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, I have the beholder. Love is just the hand that guides the strap off the shoulder. Older.